Bonjour frères et sœurs en Christ, je voudrais vous inviter avant d'ouvrir les Écritures à prendre un moment dans la prière ensemble, que nous puissions fermer nos yeux, incliner nos têtes et nous recueillir pour apporter ces instants au Seigneur. Père éternel et Dieu de miséricorde, dans ce jour nous sommes devant ton trône, dans ce jour nous sommes à tes pieds. Dans cet instant même, Seigneur, nous nous retrouvons chacun dans des lieux différents, mais unis par un même esprit, par un même cœur, unis dans celui qui est le seul et vrai Dieu, unis dans cette communion qui dépasse les distances, qui enlève toute barrière, quelle qu'elle soit, et qui nous permet, Seigneur, de nous rapprocher de celui qui est le seul et vrai Dieu. Seigneur, dans cet instant qui sont les nôtres, et dans ces moments que nous voulons partager autour de ta parole, nous te prions d'être celui qui dirige, d'être celui qui parle, d'être celui aussi qui convainc, d'être celui qui guérit, d'être celui qui relève. Seigneur, ta parole, elle est efficace parce qu'elle vient de toi. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole du Dieu vivant. Seigneur, nous proclamons encore la bonté, la grandeur et l'autorité de ta parole. Et nous désirons, Seigneur, encore incliner nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, Seigneur, sous l'autorité de ta parole. Merci encore d'étendre ta main sur tous ceux et celles qui sont malades, qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le deuil. Que ta main, Seigneur, puisse consoler, relever, guérir. Seigneur, merci encore pour ta fidélité et ta bonté qui est à toute épreuve. Amen. Je vous invite à faire une lecture dans le livre des Actes au chapitre 4, à partir du verset 23 au verset 32. Actes chapitre 4, verset 23 au verset 32. On se trouve dans un moment bien particulier pour la première Église, moment où l'Église se trouve de plus en plus à être persécutée, et la manière où l'Église vit ces instants produit un effet incroyable qui est certainement lié à l'action de l'Esprit de Dieu. Et c'est cette œuvre que nous devons désirer et pour laquelle nous devons tous œuvrer, ce travail d'unité, ce travail de solidarité, ce travail aussi de soutien mutuel en toutes circonstances. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Comme un seul homme ». Mais faisons ensemble la lecture. Actes chapitre 4, à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avait dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu des vaines pensées ? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Premier point qui nous interpelle, c'est les voix que nous pouvons entendre, les discours, les propos. Quelle voix écoutons-nous? Le texte nous dit qu'ils allèrent vers les leurs et ils racontèrent tout ce qu'il leur avait été dit. Dans le chapitre 4, du verset 18 à 21, nous allons lire ensemble les propos qui ont été donnés à Pierre et à Jean, les paroles des religieux face à la foi, face aux actions, face au ministère des disciples de Jésus. Actes chapitre 4, versets 18 à 21. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent : Est-il juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Dans le contexte de ce moment particulier dont Pierre et Jean vont être les premiers à devoir faire face, néanmoins, derrière ces deux disciples, il y a l'Église tout entière. Cette Église auquel Pierre et Jean, malgré, je dirais, l'envergure de leur ministère, l'onction qui était sur eux, ils reviennent pour faire un rapport de cette situation, de ces circonstances, de cette épreuve nouvelle qui touche l'ensemble du peuple. La volonté de Dieu est certes que nous puissions annoncer sa parole, agir avec l'onction du Saint-Esprit, agir avec sagesse, certainement, œuvrer et apporter ce message d'espérance, être des outils entre les mains de Dieu pour toucher des cœurs, mais aussi pour toucher des corps. En effet, toute cette situation était liée à une guérison qui avait dérangé certains. Mais quel fut le langage de l'Esprit face aux paroles du monde? Oui, le Saint-Esprit parle en opposition au langage du monde. Et quand on parle du monde, on parle surtout de tout ce qui est lié au péché, à la religiosité, tout ce qui se met en opposition à Dieu, tout ce qui se met en opposition à la parole de Dieu. Lisons-le ensemble, toujours Actes chapitre 8, chapitre 4, à partir du verset 8. Actes chapitre 4, à partir du verset 8. Et là, nous allons voir la réponse de l'Esprit de Dieu. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par laquelle nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais, en voyant debout auprès de l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. On voit que la réponse aux paroles, aux propos, à l'opposition que le monde peut avoir face à la parole de Dieu, ce n'est pas les paroles des hommes qui sont attendues. Ce n'est pas les propos, mais c'est une parole venant de Dieu, une parole inspirée par le Saint-Esprit. Et en effet, on voit que Pierre parlera, mais rempli d'Esprit Saint. Cette parole qui vient de l'Esprit Saint donnera une réponse auquel il n'y aura pas de réplique. Comment répliquer devant la sagesse et la grandeur de la pensée de Dieu? Certes, si le monde peut essayer de convaincre avec des discours, des philosophies, croyons bien, Dieu a bien plus que toute forme de philosophie et de beaux discours pour convaincre les cœurs. L'action du Saint-Esprit. Donc, les paroles de Pierre furent des paroles remplies d'Esprit Saint. On voit aussi que Dieu, dans sa bonté et dans l'action du Saint-Esprit, y transforme nos imperfections, celles qui sont vues par le monde, comme un actu pour le Seigneur. Ils avaient reconnu en Pierre et Jean, et ils étaient étonnés de ces deux hommes, en se rendant compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Certes, ces hommes, je dirais, de pouvoir, qui avaient reçu une instruction, qui avaient reçu tout un enseignement, qui avaient certainement des idées bien arrêtées avec une doctrine bien personnelle, étaient étonnés des propos de la sagesse, de l'action aussi, et de la portée des mots qui pouvaient sortir de deux hommes tout simples. Eux y voyaient dans leur manque d'instruction une imperfection, mais Dieu voyait dans cette imperfection, entre guillemets, humaine, un actu. Parce que, à partir de là, ce qui pouvait sortir, ressortir de ces hommes, ne pouvait être attribué à personne d'autre qu'à Dieu lui-même. Ils ont été reconnus pour être les disciples de Jésus. La teneur et la portée de leurs propos étaient empreints d'une foi qui était enracinée dans ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, de ce qu'ils avaient vu avec Jésus. Ô combien est important de retenir dans notre cœur toutes les fois où Dieu est intervenu, nous a secouru, les fois où Dieu a parlé à notre cœur, les fois où Dieu a essuyé nos larmes, les situations et les circonstances où nous avons vécu le secours de Dieu, spirituel, matériel, les interventions de Dieu, alors que nous pensions peut-être que tout était perdu, que tout était terminé. Et là, Dieu nous surprend. Oui, parce que Dieu est surprenant. Parce que Dieu dépasse toute cognition humaine, toute pensée humaine, et ce qui pour nous est une limite, certes, ne pourra jamais être attribué à Dieu, car Dieu n'a pas de limite. Question. Quelle voix élevons-nous? Si la première pensée que j'ai souhaité vous exprimer, c'est quelle voix entendons-nous? Maintenant, à quelque part, c'est à nous aussi de donner une réponse. Alors, quelle voix élevons-nous? Au verset 24 de notre lecture, nous avons lu « Lorsqu'ils eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, une voix qui s'élève d'un commun accord. Oui, ce que deux ou trois s'accordent. Il y a une question de cœur, il y a une question d'unité, il y a une question de sentiment, il y a une question de même but. Il n'est pas question de tirer la couverture plus d'un côté ou de l'autre, non. On est là pour la cause de Dieu. On est là pour œuvrer pour Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous on veut. C'est ce que Dieu veut. Une voix qui s'élève pour proclamer les vérités bibliques. Et on le voit en verset 24, « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. » En effet, une voix qui reconnaît la majesté de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Oui, c'est ça la voix que le monde a besoin d'entendre. Face à tous les discours, face à tous les propos, face à toutes les théories qui pourraient s'élever pour empêcher l'annonce de l'Évangile. Une voix qui s'élève et qui proclame. Versets 25 et 26 nous dit « C'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu des vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Il est question pour nous aussi de reconnaître non seulement la majesté de Dieu, mais aussi l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Et dans sa sagesse, il a déjà prévu la réponse à toute question. Avant que nous pensions à quelque chose, Dieu connaît déjà notre pensée. Et Dieu savait de quelle manière intervenir ce jour avec Pierre, avec Jean, face aux hommes et aux femmes qui se trouvaient devant eux, face aux accusations. Ayant cette confiance dans le fait que Dieu maîtrise toutes choses, et quelle qu'il soit l'interrogation, quel qu'il soit le problème, quel qu'il soit, je dirais même, le dilemme devant lequel nous pouvons nous retrouver, Dieu a la réponse. Une voix qui s'élève et qui proclame. Verset 27, car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Preuve en est que Dieu contrôle tous les éléments. Rien ne se produit que Dieu ne le veuille ou le permette. Dieu savait très bien de quelle manière le cœur, attaché au péché, à la religiosité, aurait mis en œuvre toute forme d'opposition pour empêcher l'annonce de l'Évangile, pour empêcher que le peuple de Dieu puisse avancer, grandir. Certes, l'œuvre de Dieu dérange Satan, dérange tous ceux et celles qui aiment vivre dans le péché. La parole de la vérité dérange ceux qui préfèrent le mensonge. La parole de la vérité dérange tous ceux et celles qui permettent dans leur vie et qui désirent le compromis. Une double vie, voire triple, pourquoi pas, n'est-ce pas? Les habits du dimanche et les habits de la semaine. Le langage du dimanche et le langage de la semaine. La manière d'être, je dirais, habitué à se placer devant ceux qui nous connaissent avec une image et après peut-être dans d'autres circonstances avoir une attitude qui est complètement l'opposé de cette image que Dieu désire voir dans notre vie, une image de sainteté, de vérité, de justice. Non pas seulement quelques minutes ou quelques heures par jour, mais à chaque instant de notre vie. Quel choix faisons-nous? Oui, parce que ce type de circonstances, ce type de situation nous amène quand même à devoir faire des choix. Et au verset 29, nous lisons « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Maintenant. » On pourrait presque dire « Maintenant, Seigneur, tiens-nous par la main. Accompagne-nous, Seigneur, sois celui qui intervient. Seigneur, maintenant, montre ta puissance. Seigneur, maintenant, ta réponse. » Le premier sens de ce mot « maintenant », en ce moment, à l'instant, de nos jours. Oui, ce terme indique une notion de temps désignant la période actuelle, qu'elle soit plus ou moins large, en heure, en jour ou en semaine, maintenant, Seigneur. À l'instant où nous nous retrouvons, Seigneur, maintenant, viens à notre secours. Deuxième sens, dorénavant, désormais, à partir de cet instant, et ce terme désigne le but de quelque chose. Seigneur, maintenant, nous devons passer à une nouvelle étape, un nouveau moment. Si l'épreuve a été là, et certes, tu nous as demandé d'écouter ce qu'il nous avait été dit, maintenant il est de temps de la réponse. Quelle est ta réponse, ô Dieu, maintenant, désormais, à partir de cet instant? Troisième sens de ce maintenant. Ceci dit, ce terme introduit une explication après avoir entendu les propos, les actions, les menaces qui ont pu être faites, maintenant, dès à présent, ceci dit, voici ce qui va se passer maintenant. Il est question d'annoncer la parole avec assurance. Oui, au verset 29, c'est la prière. On pourrait dire ceci dit, après tout ce que ces hommes ont pu annoncer, Seigneur, donne d'annoncer la parole avec assurance, qu'aucune crainte puisse gagner notre cœur, qu'aucune crainte puisse empêcher notre foi d'avancer, qu'aucune peur ou menace quelconque puisse faire que nos bouches restent fermées devant celui et le seul qui est digne de toute louange, de toute gloire, ce nom dans lequel tout homme, toute femme peut être sauvé de ses péchés, peut être guéri de ses maladies. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement question d'annoncer la parole avec assurance, chose très importante, et d'ailleurs vous voyez, c'est la première chose qui est mise en liste dans la prière. Mais il y a aussi, Seigneur, donne des signes puissants par le nom de Jésus. Seigneur, accompagne ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, c'est toi qui confirmes ta parole. Dieu, c'est lui qui en réalité affirme et confirme. C'est lui qui est le garant de sa parole. Alors, quel fruit portons-nous? Dans le texte que nous avons lu, on voit à partir du verset 31, il est question de changement, de transformation. Quel fruit portons-nous? Les différentes situations dans lesquelles la première Église ainsi que l'Église dans son histoire, le peuple, se sont retrouvés, il y a eu un avant et après. Il y a toujours un avant et après. Toute situation, toute circonstance dans laquelle Dieu peut nous conduire, il y a un avant et il y a un après. Il est question pour nous de savoir quels fruits allons-nous porter maintenant. Le mot revient maintenant. Dorénavant, désormais, à partir de cet instant, quel va être le fruit que voulons-nous porter? Reprenons notre lecture à partir du verset 31, si vous le voulez bien. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribua à chacun selon qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et il le déposa aux pieds des apôtres. Quel fruit voulons-nous porter? Un fruit qui est l'expression d'une vie et d'un message rempli de l'Esprit, tel que nous l'avons lu au verset 31? Une action dans laquelle le Saint-Esprit montre, d'une manière pas seulement spirituelle, mais je dirais même matérielle, physique, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il y a dans la parole de Dieu des moments où la terre a tremblé. Et quand la terre a tremblé, a servi à ouvrir des prisons, a servi à intervenir, à montrer que Dieu était dans l'affaire. Nous avons besoin, frères et sœurs, que Dieu fasse peut-être trembler des choses dont les vies, pas seulement les nôtres, mais aussi de notre génération, pour remettre les choses dans le bon ordre, pour manifester sa puissance, son autorité. Avec ça, je ne veux pas qu'on ait forcément des tremblements de terre, mais quelque chose de spirituel, certainement, qui vienne briser des convictions humaines, pour amener les hommes et les femmes à s'incliner, à s'agenouiller devant Dieu. Mais avant de penser aux autres, pensons à nous-mêmes. Est-ce que nous accepterions? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, viens l'ébranler, viens le détruire, viens le transformer, Seigneur. Si j'ai pu construire quelque chose qui ne te convient pas, Seigneur, viens le raser. Oui, Seigneur. Si j'ai construit des murs pour faire une espèce de barrage de protection, mais qui à la fin est devenu peut-être ma propre prison, alors Seigneur, ouvre, ouvre cette prison. Seigneur, redonne à mon cœur, à ma vie, ainsi qu'à ma manière de prier, Seigneur, cette puissance, cette autorité du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous d'avoir, oui, et de pouvoir apporter ta parole avec assurance. On voit au verset 32, il y avait un fruit, le fruit de l'unité. Je dirais avec le même parfum, le même goût. Ils étaient tous d'un commun accord. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Et en plus, la grâce qui repose sur le peuple, cette grâce pour soi-même, mais aussi pour les autres dont il est question au verset 33, le peuple de Dieu était béni, mais aussi ceux qui étaient autour étaient au bénéfice de cette bénédiction, de cette grâce, de ce moment où Dieu répondait aux prières, de ce moment qui permettait à des hommes et des femmes de réaliser la puissance et l'autorité de Dieu. Et je crois que la manière où nous vivons les choses, la manière où nous les manifestons, la manière où nous les partageons, doit permettre que les yeux de ceux qui nous entourent, et avant tout les cœurs, s'ouvre à la parole de Dieu, à l'annonce de Dieu. Et cela, certes, c'est l'action du Saint-Esprit. Mais nous sommes appelés à y participer, à être activement engagés pour que cette grâce dont nous avons reçu, cette part incroyable et merveilleuse, puisse être débordante pour ceux qui nous entourent et qui puisse être touchée par l'action du Saint-Esprit. Un fruit qui se voit, car il produit des fils d'exhortation. Verset 36. D'un coup, il y a cet homme, Joseph, qui a été surnommé. On va lui donner un petit nom, Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Il y avait quelque chose dans le cœur de cet homme qui était reconnaissable. C'était quelqu'un qui, transformé par la main de Dieu, transformé par l'action de l'Esprit, ce qui ressortait en lui, c'était cette capacité d'être un fils d'exhortation pour les autres, d'être là pour relever les autres. Combien voudraient avoir un surnom comme ça? Combien désirent aujourd'hui de dire, Seigneur, fais de moi un fils ou une fille d'exhortation? Certes, il était lévite, originaire de Chypre, mais peu importe le lieu d'où on vient, ce qui importe, c'est où on va et avec qui on va. Le texte nous dit qu'il avait vendu son champ parce que tel était son désir de bénir. Son désir n'était pas d'être à moitié avec Dieu, mais entièrement avec Dieu. Un fruit qui se donne et qui se met au service des autres. Alors la question pour nous, sommes-nous prêts à être comme un seul homme? Les temps qui sont devant nous, je dirais davantage, nous demandent, nous invitent, je dirais même nous poussent à montrer que nous sommes comme un seul homme. Et dans le cœur, dans l'esprit, dans le, je dirais, la pensée, le projet est celui de Dieu. C'est Dieu qui est celui qui fait battre le cœur de l'Église. C'est Dieu qui en imprime la pensée. C'est son esprit qui donne vie. Frères et sœurs, soyons comme un seul homme. Avançons, agissons et travaillons pour être chacun d'entre nous des fils d'exhortation. Je vous invite à prendre du temps dans la prière d'une manière personnelle. Et si vous êtes en famille, en couple, vous êtes en train d'écouter ce message ensemble, priez ensemble et demandez que Dieu agisse au sein de votre foyer. Priez pour votre famille, priez pour vos voisins, priez pour l'Église, priez pour la ville, priez pour les autorités. Frères et sœurs, n'oublions pas la responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous. d'être comme un seul homme au service de Dieu. Que Dieu vous bénisse.